J'espère qu'en chantant ces paroles qui sont divinement inspirées, parce qu'elles sont empreintes de la parole de Dieu, que nous avons saisi la portée de l'amour de Dieu pour nous. Nous allons ensemble méditer, réfléchir sur un texte qui est connu de beaucoup, mais je voudrais peut-être marteler une vérité profonde qui concerne le mystère de Dieu fait homme. Parce que dans ce monde d'aujourd'hui, il y a tellement de vérités avec un petit V qui sont énoncées sur ce mystère profond que mon cœur désire contrer tout ce que le monde dit concernant ce mystère profond. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu, avons-nous chanté. Quelles conséquences ces vérités, cette vérité, ce mystère peut-il avoir dans ma vie au quotidien? Telle est la question que je voudrais poser et aussi réfléchir par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, dans ce monde, tout se prépare pour fêter Noël, tout au moins dans les pays dits christianisés. Les guirlandes, le sapin, la crèche, les maisons, les rues, les places communales, tout est en train de s'illuminer, ça scintille de toutes parts. On parle de marché de Noël, quoique on parle aujourd'hui de plaisirs d'hiver, et pour les pays en guerre, de trêve de Noël. Le hic est que dans toutes ces organisations, c'est pas le Dieu qui est Seigneur qui est à sa place, c'est le Dieu argent. On organise cette fête sans Jésus. On l'oublie. Et en tant que chrétiens, nous avons besoin de redonner sens à cette fête de Noël. Car nous sommes enfants de ce Dieu éternel. Il y a 2000 ans, au berger qui était dans la plaine de Bethléem, un ange est arrivé alors qu'ils avaient peur. C'était des choses pour eux qui étaient inconnues, ces pauvres bergers, les rebuts de la société, et les anges de dire à ces bergers, « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, et encore pour nous aujourd'hui, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ et qui est Seigneur. Ce sauveur a été déclaré de la part de Dieu Seigneur. Il est bon, bien-aimé, de se rappeler que quand Fils, Dieu est venu en chair d'homme parmi les hommes pour mourir à la place des hommes. Et d'office, je refuse ce que certains proclament, que c'est Dieu qui est mort. Dieu en chair d'homme, et c'est l'homme qui est mort, Dieu réconciliant en Jésus-Christ, Fils de l'homme, sa créature avec lui. Et c'est en Fils que Dieu est venu pour nous parler de son amour, de son salut, de son pardon, de son projet éternel de gloire. Si cela est gratuit pour nous et fait ce sujet de grande joie pour nous, n'oublions pas que le prix a été énorme. C'est gratuit pour nous. En réponse à la repentance et à la foi en ce Seigneur de gloire, mais pour notre Dieu, ça a été atroce. Il a payé en donnant son Fils et il a dû voir ce Fils bien-aimé mourir pour ceux qui le haïssaient. À nous de donner, bien-aimés, en réfléchissant à ce qu'a été ce premier Noël, donner sens à cette fête encore aujourd'hui. Nous allons ouvrir la parole de Dieu, mais je voudrais cadrer ce texte. Paul se trouve à Rome. Il est en prison. Il a écrit plusieurs lettres depuis la prison, et en particulier, il a écrit à l'église aux Philippiens, donc de Philippe. L'église de Philippe, qui est pour Paul un sujet de joie, bien que. Il y a quelques sujets de tristesse qu'il va mettre en évidence. Et dans les versets que nous allons lire, il y a un constat qui est triste pour l'apôtre Paul, et s'il l'est pour Paul, il l'est davantage pour le cœur du Père. Un manque d'amour, un manque d'unité, un manque d'humilité, des rivalités de ceux qui sont en opposition avec la croix de Christ, de l'égoïsme. On peut comprendre que dans le monde, toutes ces choses se trouvent, mais pas dans l'Église. Pas dans l'Église. C'est pourquoi nous avons besoin constamment de revenir à la source et de nous imprégner, de demander au Seigneur de venir par son esprit imprégner cette vérité profonde de son amour, de son abaissement, de son humiliation pour nous. Le texte central de notre réflexion ce matin est encadré de deux exhortations. La première exhortation est plus dans le domaine du constat de ce que les chrétiens vivent, en les exhortant, « Allez, puisque vous avez cela en Christ, réveillez-vous !» Et puis, nous verrons de quelle manière le modèle parfait nous est présenté, et deuxième exhortation qui cadre avec le modèle qui est présenté, c'est de dire comment pouvons-nous vivre en chrétien à la gloire de celui qui nous a tant aimés. Et je vous propose de lire quelques versets qui se trouvent dans l'Épître aux Philippiens et au chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Nous lisons « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, en ayant entre vous un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Dans ma traduction et dans plusieurs traductions, c'est le mot « si » qui est utilisé, qui me fait penser, qui nous fait penser à une forme de, je vais dire, de doute. Si, voilà. Le texte original n'est pas dans ce sens. Mais le texte original, je vais le lire tel qu'on peut le traduire, n'est autre qu'une conséquence de notre union, de notre attachement à Jésus-Christ, à sa parole, tels les sarments doivent être attachés au cep pour recevoir sa vie et produire le fruit à la gloire de Dieu. En français courant, j'ai lu « Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage ?» Si c'est cela, rendez ma joie parfaite. Voilà une traduction que j'ai pu faire en partant de ces diverses traductions. Puisqu'il y a en Jésus-Christ et à votre attachement à lui tant d'encouragement, puisque son amour a un tel pouvoir de persuasion, de conviction en vous, puisque par son Esprit Saint, nous sommes rassemblés dans une merveilleuse communion que produit le Saint-Esprit, puisqu'il vous a manifesté tant de compassion et de miséricorde, vivons ensemble à la joie de notre Père dans une communion parfaite. L'apôtre, en écrivant, n'a aucun doute sur les grâces riches et variées qui se trouvent en Jésus-Christ de la part du Père pour chacun de nous. L'encouragement, le réconfort, l'amour pour Dieu et le prochain, la joie de la communion, le cœur pour relever et non pas pour écraser, doivent être incarnés dans nos vies personnelles, mais également dans nos vies communautaires, d'église, dans la condition de rester attachés à Jésus-Christ, de l'avoir, lui, en point de mise. Les membres du corps de Christ doivent vivre dans l'unité et dans l'amour. Ils doivent posséder les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Ils doivent suivre le Seigneur. Même dans des vallées, dans des chemins rocailleux, sur lesquels on n'aimerait pas s'y trouver. Mais là où a marché le Seigneur Jésus, nous sommes invités à le suivre. Et puisque nous sommes invités à réjouir le cœur du Père, en ayant goûté ses grâces, ses bénédictions riches et variées, nous continuons la lecture au verset 2 de Philippiens 2. Si vous marchez comme cela, dans la vérité, dans l'amour entre vous, alors ma joie sera parfaite, dit Paul. Et au travers de ce que Paul atteste, moi j'entends la voix de mon Seigneur qui me dit, si vous marchez comme cela, bien-aimé, alors moi je serai comblé de joie, je serai heureux. Et je pourrais dire, tu es mon fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie, toute mon affection. Et le verset 3 est là aussi pour déclarer le constat que Paul fait au sein de l'église de Philippe. Si vous êtes unis, ne faites rien par esprit de rivalité. Rien. Ou ne faites rien par désir inutile de briller personnellement en se mettant en valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Comme c'est difficile, hein. Surtout quand on a des avis divergents, hein. Moi, dans mon couple, je sais que, oui, l'un comme l'autre, on aime bien avoir le dernier mot dans nos conversations, parfois houleuses. Considérer les autres supérieurs. Et le verset 4, que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux intérêts des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Exprimez, comme dans ma version, ayez en vous les mêmes sentiments. Ayez en vous des dispositions de cœur telles que le Seigneur Jésus l'avait. Et c'est ainsi qu'après avoir fait cette première constatation sur laquelle je ne viens que de lancer quelques brides et qu'il vous appartient de poursuivre et que le Saint-Esprit poursuivra dans vos cœurs, dans la réflexion personnelle, Paul va argumenter son premier constat et son premier désir de voir l'amour et l'unité dans l'Église en présentant le modèle parfait. À la fois dans son abaissement et à la fois dans son élévation. N'inversons pas le chemin que Dieu a pour nous. Certains veulent la gloire sans passer par la croix. Certains veulent les belles choses sans passer par la souffrance. Le Seigneur Jésus pouvait dire, si tu veux me suivre, tu dois renoncer à toi-même et porter ta croix. Tu vas subir à cause de moi les mêmes moqueries que moi j'ai rencontrées. Si tu souffres, alors tu vas régner avec moi. Dieu honore celui qu'il honore. Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 9, dit ceci, « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, et moi je mets des chiffres sur ce peu de temps, 33 ans et demi, celui, Jésus, qui a été abaissé pour 33 ans et demi, pour un peu de temps. Et il a été abaissé en dessous des anges, pas au-dessus. Alors que c'est lui qui avait créé les êtres spirituels, célestes, angéliques. Voilà que le Créateur se fait pour un peu de temps en dessous des anges. Nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur. Pourquoi ? À cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Ayons en nous les mêmes sentiments, les mêmes attitudes de cœur qui existaient dans le Fils bien-aimé. À cause de son obéissance parfaite jusqu'à la croix du calvaire, une souffrance ignoble, il a été couronné de gloire à cause de cela. Ce chemin doit être le nôtre. Désolé de vous le dire. Quiconque s'élève, dira Jésus, sera abaissé. Mais quiconque s'abaisse sera élevé. Pas par moi-même, pas par ce que j'aurais pu faire, mais je serai élevé par Dieu lui-même. Comme Jésus a été élevé à la gloire à cause de ce chemin d'humiliation qu'il a rencontré. Et l'apôtre Pierre dit ce même sentiment, 1 Pierre chapitre 5 verset 5, « Et tous, bien-aimés, dans vos rapports mutuels, dans l'Église, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste à ceux qui s'élèvent, aux orgueilleux, mais il fait grâce à celui qui s'abaisse, il fait grâce au cœur qui est humble. » Nous allons donc lire les deux facettes du chemin du Seigneur Jésus et nous nous contenterons dans un premier temps de lire les versets 6 à 8 de ce chapitre aux Philippiens. Nous nous rappelons que ce texte central est encadré par deux exhortations. Une issue de la constatation que Paul fait, avec une invitation à avoir les mêmes sentiments, et ensuite comment les appliquer, les incarner dans notre vie. Philippiens chapitre 2 et verset 5, « Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir son égalité avec Dieu. » C'est compliqué à comprendre. Ouais. Une autre traduction dit ceci, « Il possédait, le Fils bien-aimé, le Fils éternel, possédait depuis toujours la condition divine, mais n'a pas voulu demeurer de force dans l'égalité avec Dieu. » Nous continuons la lecture, verset 7. « Mais il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes. » Une autre traduction dit ceci, « Puisqu'il n'a pas forcé de garder son égalité avec Dieu. » L'autre version dit ceci, « Au contraire, il a de lui-même volontairement renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur, d'esclave. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme un homme parmi les hommes. » Verset 8. Je lis dans ma version, « Et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort honteuse de la croix. » Une autre version dit ceci, « Il a choisi de vivre dans l'humilité et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort et la mort honteuse de la croix. » Deux natures sont ici dépeintes. La nature divine, le rang du Fils bien-aimé, et sa nature humaine, l'apparence qu'il prend, un mode de vie terrestre qu'il prend. Et j'affirme avec autorité du Seigneur, sans altérer sa nature divine. Trop souvent dans le monde, on entend qu'il s'est dépouillé de sa nature divine. Non ! C'est le mystère profond de l'incarnation. Dieu fait chair, Dieu en homme, quelque chose qui me dépasse. Sur la terre, pendant 33 ans et demi, il a changé simplement de mode d'existence et non de nature. Quand un riche devient pauvre, son mode d'existence change fatalement, mais pas sa nature humaine. Tel a été pour le Fils de Dieu le cas. Par amour pour moi, pour nous, il a quitté son mode d'existence fait de richesse, de gloire, d'amour du Père, d'adoration des anges. Il a quitté ce mode de vie juste pour un court moment, pour prendre un corps semblable au mien, au vôtre, excepté le péché. Il a assumé un autre mode d'existence, infiniment plus bas que celui qu'il avait dans la gloire, infiniment plus pauvre que celui qu'il avait dans la gloire. Parce que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour m'élever, si je crois en lui, pour que de pauvre que moi je sois, je devienne riche. Moi, je vais connaître le chemin inverse de ce que le Seigneur lui-même a rencontré, a voulu pour m'attirer à lui et pour amener plusieurs fils à la gloire. Dans le ciel, c'est le prophète Ésaïe qui dit ceci, dans le ciel, le Père, il y a là une conversation intime, j'imagine, entre le Père et le Fils. Et dans cette conversation rapportée par Ésaïe 56, on entend ceci, le Père, Dieu le Père qui s'interroge, voilà, dans le ciel, en regardant le constat des hommes sur la terre, comment sa créature est vautrée dans le péché. Et il s'interroge, il pose la question, mais qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et le Fils qui entend la question de son Père dit, Père, envoie-moi. Tu m'as formé un corps pour que j'aille proclamer ton amour parmi les hommes. Le Fils a accepté d'abandonner sa position glorieuse dans le ciel, a accepté d'abandonner la richesse, les bienfaits, la joie du ciel, pour venir dans un monde où il allait subir l'opposition des pécheurs, la haine, le mépris, la cruauté, la violence, même jusqu'à le clouer sur la croix de la malédiction. Il est resté Dieu. Ce n'était que son apparence qui avait changé. Mais quand il vient sur la terre, il est Dieu. C'est lui, ce Seigneur de gloire, ce Jésus qui a subi les crachats et pas le Père. Mais imaginez le Père qui a accepté par amour pour moi, pour nous, d'envoyer le Fils, voir que son Fils, alors qu'il proclame l'amour, la délivrance, voir son Fils plein de crachats. Pouvez-vous imaginer que ce Fils est recouvert d'un manteau souillé par les rois, par les soldats? Pouvez-vous imaginer que l'on trace le Père, quand il voit son Fils dans lequel les soldats tracent de larges et profonds sillons avec leur fouet? Pouvez-vous imaginer ce que la tristesse du Père en voyant cela, bien-aimé, pour toi comme pour moi? Les coups qu'il a subis, la crucifixion, les clous qui ont été pions transpercer la couronne d'épines. Lui qui était le couronné de gloire et d'honneur dans le ciel, pour un peu de temps, le Père voit son Fils couronné de la malédiction, l'épine. Ce coup de lance qui vient transpercer le côté de son Fils, d'où sort le sang qui allait nous purifier de tout péché et nous rendre purs dans la mesure où nous croyons à ce sacrifice suprême. Il y a un verset dans la parole de Dieu que je n'ai jamais compris. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Bien-aimé, c'est l'amour insondable du Père pour moi, pour nous. Il consacre à voir son Fils mourir à ma place, subir sa colère, lui, le Dieu saint et juste. Bien-aimé, avant de s'incarner en homme, Dieu régnait dans le ciel. Il était couvert de majesté et de gloire, au même titre que Dieu le Père et que le Dieu Saint-Esprit. Mais voilà, lui qui régnait dans le ciel, voilà qu'il vient dans un monde rebelle. On peut être roi sans vivre comme roi, sans occuper la place d'un monarque, et pour autant rester roi. Je pense à ce qu'il a été vécu en Belgique, voici quelques décennies, un roi qui part en exil, qui cache sa noblesse pour côtoyer les hommes, mais cela n'a rien enlevé à son rang royal. Ainsi en est-il de Christ. Il a été fait, comme nous l'avons lu, il a été fait pour un peu de temps, en dessous des anges. Et quand il prend place sur cette terre, les anges qui plongent leur regard dans ce mystère ne comprennent pas. Au point que, cela est rapporté dans le livre aux Hébreux, Dieu donne l'ordre aux anges, que les anges l'adorent. Ce n'est pas parce qu'il a pris une apparence humaine qu'il n'est plus Dieu que les anges l'adorent. Même dans l'étable, il est resté Dieu. J'allais dire, même dans le sein de sa mère, Marie, il est resté Dieu. Même dans des situations difficiles d'hommes, qui allait de lieu en lieu et qui rencontrait alors en retour de tant de bien, il rencontrait l'opposition. Il était Dieu. Même au plus profond de son abaissement, de son humiliation, il était Dieu et il reste Dieu. Il aurait pu montrer à certains moments donnés qu'il était Dieu. D'ailleurs, il a répondu parfois à une question. Es-tu le Fils de Dieu ? Ben oui. Il n'était pas venu pour parader, mais il était venu pour servir et sauver. Il s'est dépouillé lui-même en revêtant ce qu'il n'avait jamais connu, la condition d'homme. Il s'est dépouillé, non pas comme plusieurs le disent dans ce monde, de sa nature divine. Non. Non, quelle hérésie. Refusons cette doctrine. Il s'est dépouillé de sa condition d'existence dans le ciel. Mais il ne s'est pas dépouillé de sa nature divine. Il n'a pas renoncé à sa divinité, mais uniquement à son mode de vie. à votre avis, si Christ avait été un simple homme, de quoi aurait-il dû se dépouiller pour apparaître comme un simple homme? Je ne sais pas moi. Moi, nous, nous ne dépouillons pas nous-mêmes en venant au monde, puisque je suis un homme, j'ai commencé à être bébé dans le ventre de ma mère, bébé, etc. Mais je ne me suis pas dépouillé, puisque je suis né homme ou femme pour d'autres, et qu'on l'est toujours. Mais pour Dieu, devenir homme, c'était se dépouiller de lui-même, de son existence céleste. Et Dieu seul avait le pouvoir de cette humiliation, de ce dépouillement. Il a changé sa forme divine, sa forme de Dieu, contre une forme humaine. Je vais même dire plus loin, contre la forme d'un esclave, d'un serviteur, pour nous servir. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, tout en restant dans son rang divin. Quel mystère! Je ne comprends pas. Et j'adore. Aucun esprit créé, même pas angélique, n'est en mesure de comprendre ce mystère. Comme je l'ai dit, les anges sondent ce mystère, comprennent pas. C'est pourquoi l'ordre leur est donné. Quand le Fils de Dieu prend place sur la scène de cette terre, dans l'étable, à Bethléem, alors que les anges proclament la joie, il vous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur. Les anges ne comprennent pas et Dieu est obligé de leur dire, celui-là, c'est mon Fils bien-aimé. Il est Dieu, adorez-le. La gloire totalement présente en lui est simplement cachée, bien qu'à certains moments de sa vie, cette gloire s'est manifestée dans les miracles, sur la montagne de la Transfiguration. Il a agi juste à l'opposé de ce que Satan et le premier Adam ont fait. Il voulait devenir Dieu. Et lui, il a voulu devenir homme pour nous sauver, pour nous attirer à Dieu. Mais quelle différence! Quelle différence! Il a connu, bien-aimé, l'abandon de Dieu à cause de mes péchés. Lui qui est Dieu béni éternellement, il a grandi comme tout homme. Il a été aidé par quelques femmes. Il a même dû faire un miracle pour payer l'impôt qui était dû à César. Il a été rejeté, haï. Il a connu la faim et la soif. Et pourtant, il donnait à boire et à manger. Quel paradoxe. Il était fatigué alors qu'il donne le repos. Il n'avait pas un lieu où reposer sa terre. D'ailleurs, lui-même le dit, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Et en tant qu'homme, lorsque le Père lui présente la coupe, son désir, c'est qu'elle s'éloigne. Et puis dans l'obéissance jusqu'à l'ultime, il dit à son père, non pas ma volonté, mais la tienne. Ne suis-je pas venu justement pour cette heure? L'heure de la croix. De sorte que quand on le voyait, il n'y avait rien qui le distinguait des autres hommes. Isaïe dit ceci, chapitre 53, il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Telle est la condition dans laquelle le Fils de Dieu est apparu sur cette terre. Et lorsqu'il va vers la croix, par l'esprit prophétique qui est noté dans le psaume 22, il dira « Moi, je suis un ver et non un homme. Quand j'avais des poules et que je bêchais, ces poules venaient chercher les vers qui se trouvaient dans le sol. Et quand je pense que mon Seigneur s'est considéré, lui, comme un ver qu'on piétine, qu'on écrase, telle est la situation sur la terre que le Seigneur, que mon Seigneur a rencontrée. S'il est paru comme un simple homme, il est semblable à nous, sauf, et ça je le souligne avec force, sauf une chose qui le distinguait. Il est né sans péché, conçu du Saint-Esprit, dans le sein de Marie. Il n'a jamais connu ni commis le péché. Et pourtant, il s'est abaissé en homme pour mourir à ma place. J'aurais voulu parler de ce que Jean raconte dans Jean chapitre 13, verset 4, où au moment où le Seigneur instaure la Sainte Cène, il prend un linge et lui, le Seigneur de gloire, le maître de l'univers, s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples. Un linge qui est le symbole du travail, comme le tablier qui est le signe de service et que les esclaves utilisaient. Le Seigneur s'est abaissé jusque-là pour nous servir, pour nous amener à Dieu. Il s'est dépouillé, il s'est anéanti, il s'est humilié, lui qui a toute autorité en venant sur la terre, il a appris l'obéissance. Au travers d'un chemin de souffrance. Voilà, à vous de prolonger ces quelques versets, parce que je voudrais clôturer le deuxième volet de ce centre du message de Paul que nous lisons à partir du verset 9. En conséquence de ce chemin d'humiliation, nous lisons le deuxième volet, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se plie tout genou, soit des êtres célestes, angéliques, terrestres, nous, et infernaux ou qui sont sous la terre, expression qui se rapporte au monde des morts, de ceux qui sont en enfer. Dieu n'a pas réconcilié ces hommes-là qui ne veulent pas de lui. Voyez Colossiens chapitre 1, verset 20. Mais même ceux-là seront amenés à plier les genoux devant ce Seigneur, ce Sauveur qui s'est abaissé et que Dieu a souverainement élevé. Ce nom qui est encore aujourd'hui tellement élevé qu'il sauve, c'est au nom de Jésus. que nous pouvons être sauvés, que nous pouvons être pardonnés, que nous pouvons avoir de l'espérance. Il avait reçu de la part du Père cette autorité pour donner la vie à celui, à ceux qui s'approchent de lui par la foi. Et quand il remonte au ciel, et que nous le voyons aujourd'hui couronné de gloire et d'honneur, Dieu lui a simplement rendu ce qu'il possédait, la gloire qu'il avait auprès de lui avant que le monde fût. Il faudrait relire la prière sacerdotale du Seigneur Jésus dans Jean chapitre 17, où il est dit « Père, glorifie ton Fils afin que celui-ci te glorifie ». Il faudrait expliquer toutes ces choses. Mais au verset 5, il est dit « Et maintenant, toi, Père, alors que l'œuvre de la réconciliation, l'œuvre de l'expiation des péchés sera terminée, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Glorifie-moi, Père, au ciel de la gloire éternelle que je partageais dans le ciel avec toi avant mon incarnation. L'œuvre est parfaite, elle est accomplie. Elle est terminée, nous n'avons rien à ajouter. Père, maintenant je retourne vers toi. » Et les disciples, plutôt que de se réjouir que le Seigneur allait remonter au ciel, ben, ils sont pleins d'interrogations, alors qu'il les avait avertis. Mais plus que cela, bien-aimé, je lis Éphésiens 1, verset 20. « Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a assis à sa droite majestueuse, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement aujourd'hui dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » 1 Corinthiens 15, il a mis toutes choses sous ses pieds. Prenons conscience que Dieu, en élevant, en replaçant son Fils dans la gloire, il l'a donné pour chef de l'Église. Quand les chrétiens se réunissent, il ne doit pas avoir de petits coqs hein, qui doivent chanter. Seul le Seigneur Jésus est le chef de l'Église. C'est lui qui a toute autorité. Quand il remontait au ciel, il disait à ses disciples, tout pouvoir, tout, pas moins quelque chose, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Afin qu'au nom de Jésus, nous l'avons lu dans Philippiens, tout genou se plie et que toute langue confesse que ce Seigneur qui s'est abaissé est glorieux, qu'il est le Fils de Dieu éternel et qu'il est le Seigneur de gloire. Jésus est Seigneur. Jésus qui signifie sauveur, Dieu sauve. Dieu a donc fait aux hommes du sauveur du monde le Seigneur du monde. Et tant que nous n'avons pas reconnu ce Seigneur, nous ne pouvons pas être sauvés. Il est le Seigneur qui s'est abaissé pour venir nous sauver. C'est beau cela. Moi, ça me console, ça me réjouit. C'est encourageant de connaître tout cela. Celui qui tient toutes choses dans ses mains est celui-là même qui a versé son sang en rançon pour que je sois sauvé, purifié et avoir une éternité de félicité. Bien-aimés, nous allons voir sa gloire. La gloire du Créateur, la gloire de celui qui s'est abaissé pour nous racheter, la gloire du Rédempteur. Celle-là, nous allons la voir. Mais sachez que nous allons partager la gloire du Fils de l'homme dans le ciel. Et en attendant, nous sommes invités à regarder constamment le modèle parfait. Et nous allons lire la deuxième exhortation. Première exhortation, un constat. Paul trace place devant nous le tableau du modèle parfait de Jésus-Christ dans son abaissement et dans son élévation par Dieu. Et nous allons lire maintenant ce qui devrait en résulter dans nos vies en contemplant ce Seigneur de gloire. Être comme Jésus, des serviteurs obéissants. Nous lisons à partir du verset 12 et je termine par là. Ainsi, en conséquence, mes bien-aimés, comme vous avez, je lis bien, comme vous avez toujours obéi. Si c'était moi qui écrivais, je ne pense pas que j'aurais mis le mot toujours. On reprend. En conséquence, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre, montrez votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, dit Paul. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites tout, toutes choses, sans murmure ni hésitation. Ma femme m'appelle souvent la machine à vapeur. Parce que quand je dois faire des choses, parfois c'est... Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Seigneur, tu veux, bouffe, saute dans le train. Direct. On n'hésite pas. Tu le dis, je fonce. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Avant-hier, nous étions avec nos amis voisins, là, Hervé et Suzanne, à un concert de Noël. On était bien, voilà, c'était quelque chose d'agréable. Un merveilleux chœur d'hommes qui chantait les louanges de Dieu. Et puis on sort, plein de ressources. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que beaucoup de voitures avaient deux pneus crevés. Sauf la mienne. Voilà. Nous sommes dans une génération perverse et corrompue. Et on doit briller, on doit montrer ce salut, cette espérance, la vie de Christ en nous. Et l'apôtre de dire, dans cette génération, vous devez briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je, dit Paul, pourrais alors me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Bien-aimé, c'est le souhait que je forme pour nous, moi et vous. C'est que cette parole divine que le Saint-Esprit vient de souligner ce matin bien sûr au travers de ma bouche, mais voilà. J'espère que je n'ai été qu'un écrin de velours noir pour que cela, le Seigneur Jésus soit manifesté au milieu de nous, que vraiment nous ayons ce désir d'avoir ce même sentiment qui est en Jésus-Christ, que l'amour de Christ vienne nous remplir nos cœurs d'un amour profond, même pour nos ennemis. D'avoir ce sentiment que même s'il faut passer par les tribulations, que le Seigneur a vaincu et que la gloire nous attend. Soyons à l'image du Seigneur Jésus, des serviteurs en qui il trouve son plaisir. Je vous propose de chanter « C'est qu'il fait bon à ton